إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لشيخ l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit ensuite: le dixième, c'est-à-dire le dixième des annulatifs de l'islam, consiste à se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas la prendre ni la mettre en pratique. La preuve à ce sujet est sa parole subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés: qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Ceci est donc le dixième et dernier annulatif de l'islam mentionné par l'auteur rahimahullah ta'ala dans cet épître. Et il consiste, comme vous l'avez entendu, à se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à tourner le dos à la religion, à s'en écarter tout en la refusant. Il dit rahimahullah ne pas la prendre, c'est-à-dire que la personne n'apprend pas la religion par refus et rejet de l'apprentissage. Et celui-ci ne mécroit. Il sort de l'islam à cause de son refus. Car s'il désirait la religion, alors il l'aurait apprise. Il n'aurait pas refusé l'apprentissage de la religion. Donc celui qui se détourne de la religion, en refusant de l'apprendre, en rejetant l'apprentissage, alors celui-ci a mécru et il est sorti de l'islam. Il faut faire attention ici à ne pas confondre ce cas avec celui qui délaisse l'apprentissage par paresse ou par négligence. Celui-ci, bien que sa situation soit mauvaise et réprimandable, il n'est pas tombé dans la mécréance, contrairement au premier. Cependant, il est à craindre pour lui qu'il tombe dans toutes sortes de maux, car l'ignorance est un grand fléau qui est la cause de la perdition de nombreux parmi les hommes. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il dit ensuite à rahimahullah ta'ala, ni la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont appris la religion, ils ont connaissance de la religion, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils ne désirent pas œuvrer. Ils refusent de prier. Ils refusent de jeûner. Ils refusent de donner la zakat ou de faire le pèlerinage. Ils n'accomplissent aucune des obligations. Ils ne s'écartent pas des interdits. Celui-ci, il n'a aucun désir pour la religion. Et de ce fait, il mécroît et il sort de l'islam à cause de ce détournement, car il a refusé de mettre en pratique la religion de l'islam. Et les preuves à ce sujet, elles sont nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi elles, il y a le verset de Surat al-Sajda que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Mais il y a aussi, à titre d'exemple, le verset 3 de Surat al-Ahqaf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils étaient avertis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit au verset 57 de Surat al-Kahf: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Qui est plus injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi au verset 124 de Surat Taha: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et en parallèle de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encouragé à l'apprentissage de la science. D'ailleurs, c'est la seule chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer afin qu'il lui en ajoute. Il a dit subhanahu wa ta'ala: wa qur rabbi zidni ilma. Et dit: « Oh, mon Seigneur, accrois mon savoir, accrois mes connaissances. » Et dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également encouragé à l'apprentissage de la science. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Celui à qui Allah il veut du bien, il l'instruit en religion. » Et il dit dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, « Quiconque emprunte un chemin en vue d'acquérir une science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le chemin vers le paradis. » Subhanallah. Si tu empruntes un chemin à la recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala, par ses efforts que tu fais pour apprendre ta religion, alors il te facilite le chemin vers le paradis. Il n'y a pas de doute que ceci est une récompense immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les salafs, rahimahumullahu ta'ala, ils faisaient de grands efforts dans cela. Ils voyageaient pour la science. Ils accomplissaient de longs voyages, épuisants, parfois dans le but de ne rechercher qu'un seul hadith. Ils parcouraient la terre dans le but de trouver un seul hadith. D'autres voyageaient de pays en pays durant des années dans le but de rechercher cette science. Cette science qui aujourd'hui, elle est à la portée de nos mains. Elle est devant nous, dans les livres, qui sont accessibles à tous avec les moyens de communication modernes. Aujourd'hui, les moyens ils nous ont été facilités. Il est possible à la personne d'apprendre la science alors qu'elle est chez elle, assise dans son salon. Elle suit un cours à travers une radio, elle écoute un cours enregistré, il lit un livre ou autre chose qui nous ont été facilités à notre époque. Malgré cela, tu trouves chez la plupart d'entre nous de la paresse quant à l'apprentissage de la science. On a négligé l'apprentissage de la science et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour nos manquements. Donc la science, il est obligatoire pour le musulman d'en apprendre une certaine partie. La science, elle se divise en deux catégories. Il y a une catégorie dont l'apprentissage est une obligation individuelle pour l'ensemble des musulmans. Et cette science, c'est notamment l'apprentissage de la croyance authentique. Il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre ce qui lui permet de corriger sa croyance. Il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane d'avoir une croyance correcte et d'apprendre ce qui lui permet de corriger sa croyance. De la même manière, il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre ce qui est lié aux règles de ses ablutions, aux règles de sa prière, aux règles de l'aumône, aux règles du jeûne du mois de Ramadan, ainsi que du pèlerinage et de toutes les choses que tu souhaites accomplir. La deuxième catégorie de science, c'est celle qui est une obligation communautaire, c'est-à-dire qui est obligatoire seulement pour une partie de la communauté. Et si un nombre suffisant l'apprend, alors les autres en sont affranchis. Et cette science, c'est les sciences liées par exemple aux règles du commerce, aux règles du mariage, aux règles de l'héritage et autres parmi les sciences qui ne sont pas obligatoires pour chaque individu de la communauté. Donc la science la plus importante, c'est celle qui est une obligation individuelle pour chaque musulman et chaque musulmane, à commencer par la croyance. Et comme vous le savez, comme on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises dans d'autres cours, la science n'est pas une finalité en soi. Mais il est indispensable qu'elle soit accompagnée de la mise en pratique. Car une science sans œuvre, c'est comme un arbre sans fruit. Donc tu apprends la science, puis ensuite tu la mets en pratique afin que celle-ci ne soit pas une preuve contre toi au jour de la résurrection. Ceci était donc quelques questions liées à ce dixième et dernier annulatif mentionné par l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans cet épître. Ensuite, il a dit en conclusion, « Wa la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bayna al-hazil wal-jadd wal-kha'if illa al-muqarrar. » Et il n'y a aucune différence au sujet de ces annulatifs entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux et celui qui a peur, à l'exception de celui qui est contraint. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala ici il termine en nous informant que pour l'ensemble de ces annulatifs, il n'y a pas de différence entre celui qui plaisante et celui qui est sérieux. C'est-à-dire celui qui, par exemple, il dit une parole d'apostasie ou une parole de mécréance, mais pour faire rire les gens ou pour plaisanter. Celui-ci est semblable à celui qui est sérieux et qui vise le sens de sa parole. Et la preuve à ce sujet, c'est le récit de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran qui ont plaisanté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons au retour de la bataille de Tabouk. On a déjà abordé ce sujet lors de notre étude du sixième annulatif. On a vu qu'ils ont prononcé ces paroles pour plaisanter. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum » « Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après votre foi. » Donc il n'y a pas de différence entre celui qui est sérieux et celui qui plaisante, car la religion n'est pas un sujet de plaisanterie. Ensuite il dit « Rahimahullah wal khaif » et celui qui a peur. Celui qui prononce une parole de mécréance ou accomplit un acte de mécréance par peur des mécréants, celui-ci n'est pas excusé. Par exemple, s'il égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il insulte l'islam, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par peur des mécréants, celui-ci, il a fait preuve de transigeance et il n'est pas excusé pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet, dans surat al-Qalam, au verset 9, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu délaisses ta religion afin de pouvoir t'accepter. Et la transigeance, elle n'est pas permise dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si l'homme a peur, le musulman il ne doit pas avoir peur de mettre en pratique sa religion. Mais il doit rester ferme, même face aux épreuves, même face aux pressions, tant qu'il n'atteint pas le stade de la contrainte. Et s'il atteint le stade de la contrainte, alors il est permis pour lui de répondre en partie à ce qu'il lui demande jusqu'à ce qu'il repousse la contrainte, à condition que son cœur soit apaisé par la foi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 106 de surat al-Nahl, « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman » Sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, alors que son cœur est apaisé par la foi. Il est donc indispensable que soient réunies les trois conditions suivantes. La première condition, c'est que la personne soit contrainte. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la peur ou de la complaisance. Il ne cherche pas seulement à obtenir un rang ou un intérêt auprès des mécréants, mais il est contraint, sous la menace de la mort par exemple. Et ce n'est pas simplement une peur, mais la contrainte, elle est réelle. Dans ce cas-là, ceci lui est permis et ceci est la première condition. La deuxième condition est que lorsqu'il prononce cette parole, son cœur soit apaisé par la foi, qu'il soit rempli de sérénité, mais qu'il ne prononce cette parole que par sa langue, tout en conservant la foi dans son cœur. La troisième condition est qu'il ne fasse cela que pour repousser la contrainte, non pas pour satisfaire les mécréants. C'est-à-dire que son objectif est juste de sauver sa vie, de rester en vie et de se préserver des préjudices causés par les mécréants. Comme cela est arrivé à Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu, qui est la cause de la révélation de ces versets. En effet, les mécréants l'avaient pris avec eux et l'avaient contraint à injurier le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne l'ont pas laissé jusqu'à ce qu'ils disent au sujet du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils souhaitaient. Alors il est venu plein de remords au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit, « Comment trouves-tu ton cœur ?» Il lui a dit, « Je le sens apaisé par la foi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit, « S'il recommence, recommence. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a alors révélé ce verset, qui est le verset 106 de surat al-Nahl, « Man kafara billahi min ba'di imanihi » إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur est apaisé par la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils auront un châtiment terrible. Donc, il n'est pas permis pour le musulman de faire des concessions sur une chose de sa religion pour des intérêts mondains, dans le but de satisfaire les mécréants, dans le but d'être complaisant avec eux ou d'être transigeant au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'est pas permis pour le musulman. Contrairement à celui qui est contraint, dans un cas de force majeure, alors il lui est permis de faire cela afin de repousser la contrainte. Et le fait de patienter face au préjudice, alors ceci est parfois meilleur que de prendre la permission, comme l'a fait l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala lors de l'épreuve de Khalq al-Qur'an. Il a patienté
et il n'a pas pris la permission, et ceci diffère selon les cas et selon les personnes. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit: وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا وَأَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا. Et ils font tous, c'est-à-dire ces annulatifs, ils font tous partie des choses les plus dangereuses et les plus souvent commises. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous informe de la cause pour laquelle il a mentionné ces annulatifs que l'on vient d'étudier. Il les a choisis notamment pour ces deux causes, car ce sont les plus commis et les choses les plus dangereuses. Elles font sortir la personne de la lumière de l'islam vers l'obscurité de la mécréance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il dit ensuite, rahimahullah, فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمْ أَنْ يَحْذَرَهَا وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ. Il convient donc aux musulmans d'y prendre garde et d'en avoir peur pour lui-même. Lorsqu'il dit il convient aux musulmans, c'est-à-dire il est obligatoire pour le musulman d'avoir peur de tomber dans ses annulatifs. Il doit prendre garde à ses annulatifs. Il doit avoir peur de tomber dedans. Tu ne dois pas recommander ta personne et dire: moi je connais, moi je sais, je connais le tawhid, je connais le shirk, je connais la foi et la mécréance. Je n'ai pas besoin d'apprendre ces choses-là en détail. Les gens sont sur la foi et sur l'islam. Ils sont musulmans. Ils n'ont pas besoin d'apprendre ces choses. Ceci est une grave erreur. C'est comme si ces gens se sentaient à l'abri et qu'ils pensaient avoir tout gagné. Tant que l'homme est encore en vie, alors il est exposé au trouble. Il est exposé à la fitna. Et il n'est pas à l'abri de l'égarement, ni à l'abri de la mécréance. Et regardez Ibrahim alayhi salam. Lui qui a cassé les idoles de sa main. Lui qui a été jeté au feu à cause de cela. Il disait dans son invocation: Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَنُوبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ibrahim alayhi salam, l'imam des Hunafa, le père des prophètes alayhi salam, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le préserve de quoi? De l'adoration des idoles. Ces idoles qu'il a cassées de sa main. Donc, comme l'ont dit certains parmi les salafs, qui peut se sentir à l'abri après Ibrahim alayhi salam? Si Ibrahim alayhi salam, il a eu peur pour lui-même de l'adoration des idoles, alors que dire de nous? Que dire de nous qui ne sommes que des faibles serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tous les manquements que l'on a en termes d'apprentissage de la science, en termes de mise en pratique et en termes de péché? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Donc tu dois sans cesse te rappeler que les cœurs de l'ensemble des serviteurs, ils sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. La personne, à partir du moment où elle est encore en vie, il est possible qu'elle s'égare. Il est possible qu'elle dévie de la guidée, qu'elle dévie du droit chemin. Tu ne dois donc pas te sentir à l'abri de la déviance ou de l'égarement. Combien de savants se sont égarés? Combien de gens de science étaient sur la guidée, puis sont tombés dans l'égarement, voire même pire, dans la mécréance et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de personnes pieuses sont tombées dans des grands péchés, dans la perversion et autres? Donc tant que le musulman est en vie, il ne doit pas se sentir à l'abri. Mais il est exposé aux troubles, surtout à notre époque, où les troubles, qu'ils soient liés aux ambiguïtés ou qu'ils soient liés aux passions, ils sont très nombreux, ils sont très répandus. Il est donc obligatoire pour le musulman d'avoir peur pour lui-même. Il ne doit pas se sentir à l'abri. Ceci est une grave erreur de penser que tu es à l'abri de ces choses-là. Comme on l'a mentionné lors du premier cours, l'objectif de l'étude de ces annulatifs de l'islam, c'était quoi? C'est premièrement de t'en préserver, de t'en écarter, de prendre garde à ne pas tomber dans ces choses-là qui font sortir la personne de l'islam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, il a dit: Na'oudhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les causes de sa colère et son douloureux châtiment. Donc l'auteur, rahimahullah, ici, il a cherché refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve la personne de l'égarement. Donc on doit chercher refuge auprès de lui contre sa colère et contre les causes de son châtiment. Et ceci montre que le musulman doit être rempli d'effroi vis-à-vis de cela. Car comme on l'a dit, il n'est pas à l'abri des troubles, il n'est pas à l'abri de l'égarement tant qu'il est encore en vie. Et c'est pour cela qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: celui qui souhaite prendre quelqu'un pour exemple, alors qu'il prenne pour exemple ceux qui sont morts. Car celui qui est vivant
n'est pas à l'abri de la fitna, tant que la personne est en vie.
Aussi pieuse soit-elle, aussi savante soit-elle, alors il est possible qu'elle dévie. Il est possible qu'elle s'écarte du droit chemin. Et il est même possible qu'elle passe de l'islam à la mécréance. Wal'iyadu billah. C'est pour cela que l'on doit multiplier l'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Ensuite, le shir rahimahullahu ta'ala, il a clôturé cette épître en disant wa sallallahu wa sallam ala khayri khalqihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Il a donc terminé en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en disant et qu'Allah prie sur la meilleure des créatures, Muhammad, et le salut, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des choses qui doit être faite en introduction et en conclusion des œuvres. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au verset 56 de Surat al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et les anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui les meilleures des salutations. Et ceci fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous, que nous prions sur lui et lui adressons les salutations. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur, elle signifie qu'il lui fait des éloges auprès de ses anges. Et la prière des anges pour le serviteur, c'est l'imploration du pardon en sa faveur. Quant à la prière des hommes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'invocation en sa faveur. Donc lorsque l'on dit Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, oh Allah, prie sur notre prophète Muhammad, c'est-à-dire que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse les éloges et qu'il salue le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de ses anges. Nous avons donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette épître très importante de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les manquements et les erreurs ne proviennent que de moi et du diable et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.